Oui, nous avons partagé lundi ce que veut dire aménagement de peine, puis mardi la lente acclimatation de femmes sortant de détention au centre d'accueil Le Soleiller. Et aujourd'hui, c'est le témoignage de quelqu'un qui a passé 25 ans en incarcération, qui témoigne de comment, dans l'ombre de la prison, puis très loin d'elle, à Hénin-Beaumont, se reconstruit la vie.
Et c'est une rencontre avec Claude, libre à tout prix.
Oui Hervé, c'est quelqu'un qui a expérimenté tous les modes de détention. On les connaît depuis le décret du 23 mai 1975, les centres de détention orientés vers la réinsertion sociale, les maisons centrales avec un régime de sécurité renforcé, les maisons d'arrêt pour les prévenus et les courtes peines. Claude a connu tout cela, y inclut les quartiers de haute sécurité, QHS, qui reçoivent les condamnés qui, par leur personnalité ou leur comportement, ne peuvent être affectés ou maintenus dans un autre établissement.
Je m'appelle Claude, j'ai 76 ans. Je suis né à Clichy, Seine, 92, en 39 donc. Pour la présentation, ben c'est que je peux rien rajouter de plus. Hein. J'ai deux bras, deux jambes, une tête, tout baigne.
Claude, libre à tout prix, par Marina Bello et François Test.
On dirait que le soleil va être de la partie, non ?
On a de la chance, c'est vrai ?
Si, s'il veut durer, ça c'est moins sûr. Ça va ?
Hier, on a essayé de répertorier le nombre de prisons qu'il a faites. On en a trouvé 20. Alors, il y a eu Alençon, ensuite Aix-en-Provence, toujours en maison d'arrêt, Marseille. Fresnes, il y est allé plusieurs fois parce qu'il y est allé à la fois en détention, à l'hôpital et en CNO. CNO, c'est le Centre National d'Orientation pour les transferts. Ensuite, il est allé à la santé, à Caen. Ensuite, Lisieux. Alors, Lisieux, c'était un QHS. Moulins, une centrale. Besançon, alors là, c'était spécial, c'était une maison d'arrêt isolement. Ensuite, Bayonne, Montauban, Mont-de-Marsan, Rion, Clermont-Ferrand, Arles, Poitiers, une maison d'arrêt, Liancourt, Dijon. Et puis Muret.
Il y en a sûrement que j'ai oublié, mais enfin, c'était pas mal déjà, quoi. C'était pas mal.
Et c'est vrai qu'il a fait le tour de France.
C'est pas mal. On passe la commande quand tu auras le temps, Dino. Ok, ça baigne.
Hénin-Beaumont, septembre 2015. Aujourd'hui, c'est Claude qui ouvre la grille, celle de l'immeuble où il vit depuis sa libération, dans une cour un peu reculée, en plein cœur de la ville. Il vient nous accueillir d'un pas décidé, Santiago Pied, l'air un peu canaille de ces gangsters qu'on ne voit plus dans les vieux films. Enfant des foyers, militaire déchu, braqueur à l'ancienne, tôlard longue durée, bénévole passionné, Claude a eu 100 vies. Plongée intime dans une existence hors du commun.
Le mot liberté, c'est un mot extrêmement fort. Parce que dehors, personne ne sait ce que veut dire liberté. Les gens, ils se lèvent, ils vont là, ils font ceci, ils prennent un café, ils ont le droit de sortir. Enfin, ils vivent. Donc ils vivent la liberté, ils y font même plein attention. Mais d'un seul coup, on peut plus aller là ou là. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de rues, il n'y a plus de trottoirs. Voilà, c'est fini. C'est fini. On peut plus ouvrir, fermer une porte. C'est fini. On ne peut plus manger à l'heure qu'on veut. C'est fini, tout ça, c'est fini. Et d'un seul coup, la liberté prend tout son sens. Et on prend conscience que dehors, on était libre et qu'on ne se rendait pas compte qu'on était libre. La deuxième difficulté, c'est la promiscuité. C'est un mal qui ronge. Parce que là, c'est comme la liberté. Quand vous êtes dehors et qu'il y a des gens sur le trottoir de droite qui ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours aller marcher sur le trottoir de gauche. En prison, tout le monde est dans la cage. Il n'y a pas de trottoir de gauche ou de trottoir de droite, ça n'existe pas ça. Hein. Faut faire avec. Les bons, les moins bons, les mauvais, et puis les très mauvais. Il y a un proverbe qui dit il vaut mieux faire le boucher que faire le veau. Eh bien, en prison, c'est très vrai. Hein. La prison, c'est l'attente. D'accord ? On rentre en prison, on attend l'instruction du juge d'instruction. Attente. Et puis, on attend la deuxième instruction du juge d'instruction. Attente. Moi, j'en ai eu 33. Ce qui veut dire 33 fois attente. On passe son temps à attendre. À une fois qu'on est arrivé en centrale, on reprend la capacité ou la possibilité de penser par soi-même.
Et une fois qu'on se remet à penser par soi-même, est-ce qu'on peut se créer une vie, un semblant de
oui,
vie quotidienne,
alors,
de routine ?
Alors, on est bien obligé, parce que d'abord, la vie c'est coriace la vie, hein. C'est coriace la vie, c'est costaud la vie. Hein. C'est difficile de ne pas vivre, c'est chevillé au corps. Comme on est enfermé dans un lieu, on fait avec l'espace de ce lieu pour se créer une vie. Parce que faire quelque chose, c'est vivre. Ne pas faire quelque chose, c'est mourir. Mentalement, c'est mourir.
Claude, est-ce que vous pourriez nous faire un petit tour de votre appartement, une petite visite guidée ?
Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, d'abord, cet appartement, je le dois à Michel, parce que c'est elle qui s'occupait de tout. Ici, il y a deux pièces. J'ai tout ce qu'il faut. Mais malgré tout, les premiers jours, quand j'étais assis dans le fauteuil, là, on ne peut pas empêcher la tête de penser cellule, parce qu'elle a pensé trop longtemps cellule. En détention, on prend des habitudes. Par exemple, on n'a pas de clé, donc on ne ferme jamais la porte, puisqu'on n'a pas de clé. On n'a pas de porte aux toilettes, puisqu'il n'y a pas de cabinet de toilettes. Les toilettes, elles sont là. J'ai mis un an à apprendre à fermer la porte des toilettes. Un an. On ne sort pas de prison. On sort avec la prison. Je vais prendre un exemple très simple. En cellule, la cellule, c'est 2,80 m sur 2,40 m. Il y a un lit, il y a une petite table, il y a une chaise, il y a un placard, il y a un lavabo, il y a un water et une fenêtre. Du lit au water, il y a 1,50 m. Physiologiquement, le corps prend les dimensions de l'espace. C'est-à-dire que quand on a envie de pisser du lit aux toilettes, on fait 1,50 m au maxi. La vessie, avec le temps, elle prend l'habitude de 1,50 m. Mais quand on est dehors, on n'a pas de toilette à 1,50 m. C'est terrible. C'est une vraie histoire. On tient plus debout. Et tout est comme ça. Il faut réapprendre à voir les gens. On a toujours l'impression qu'on a une pancarte là. C'est des trucs. Apprendre à parler à une femme. 25 ans, j'ai parlé à des hommes. Et d'un seul coup, je me retrouve à parler à des femmes. Je ne sais plus parler à des femmes. Alors, ou j'en fais trop, ou j'en fais pas assez. Alors, si j'en fais pas assez, je suis un ours. Si j'en fais trop, c'est louche. Alors, quel dosage ? Mais moi, je le connais plus, ce dosage-là. Monsieur. 25 ans qu'on m'a jamais dit monsieur. Jamais. Et 25 ans qu'on m'a jamais serré la main. D'un seul coup, j'arrive dehors, on me dit monsieur, on me serre la main. Alors, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Je connais des types, ils s'en sont jamais remis. Jamais. Je connais des types, le soir, ils ont été sonnés à la centrale pour demander au directeur de rentrer. Ils n'y arrivaient pas. S'il n'y avait pas eu Michel, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui.
Michel, on entend beaucoup votre prénom dans la bouche de Claude et de ceux qui le connaissent. Vous l'avez rencontré alors que vous étiez correspondante de détenus, en fait. Vous écriviez à des détenus sans les connaître. Et c'est par ce biais-là que vous l'avez rencontré. Donc le premier contact a été épistolaire.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai commencé à correspondre avec Claude en 1991. Et de là, au fur et à mesure des échanges, j'ai appris à le connaître. Au début de notre correspondance, il m'a tout de suite mis à la page. Hein, par exemple, il ne voulait pas de propos lénifiants. Il fallait qu'on soit vrai, une correspondance vraie, dans le respect de chacun. Et il m'avait dit à l'époque, si vous voulez qu'on devienne amis, il ne faudra pas hésiter à me contrarier. Sous peine qu'il faut être bon et doux avec le malheureux, quoi, parce que je ne suis pas malade, je suis tolard. Et moi, je n'hésiterai pas à vous contrarier de peur que, bon, elle ne va plus m'écrire. Hein, tout ça, c'est idiot. On est d'accord, c'est très bien. On n'est pas d'accord, on en discute. C'était quelqu'un un détenu hors du commun, par rapport aux autres qui se plaignaient, enfin, mais lui, j'avais l'impression d'écrire à quelqu'un qui n'était pas en prison. Et on avait des échanges vraiment très intéressants, que ce soit au point de vue culturel ou autre, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et il m'aidait beaucoup, contrairement aux autres détenus à qui je remontais le moral, c'est lui qui me remontait le moral et qui m'aidait à aider les autres. Alors il était à Rion à l'époque. Et ensuite, il a été transféré à Arles. Et je suis allée le voir la première fois, ça devait être en 1998, à Arles.
Donc, sept ans d'échange épistolaire avant de le rencontrer.
Avant la rencontre physique, oui, c'est ça, oui.
Et vous vous rappelez précisément de cette première rencontre ?
Oh oui, oui, oui. Beaucoup d'émotions déjà de se voir. En fait, on était heureux, contents de se voir et de se connaître enfin.
Un type de 33 ans, sans parloir.
Justement, le parloir, c'est l'un des seuls liens avec l'extérieur.
Ah, c'est le seul lien.
Quand on fait 10, 15, 20 ans de prison, est-ce qu'on a encore des gens fidèles au parloir ?
Non. Les gens, pendant, alors on va dire, les deux premières années, ils sont là. La troisième année, ils sont encore un peu là. La quatrième année, ils sont plus beaucoup là. La cinquième année, il n'y a plus personne. Hein. Sauf la vieille maman qui vient voir son fils ou un frère ou une sœur. Bon, mais c'est fini. Alors bon, ils peuvent prendre un visiteur de prison ou une visiteuse de prison. C'est un étranger, de toute façon. C'est un visiteur de prison, c'est un brave monsieur qui vient pour discuter d'une demi-heure et puis qui repart après, quoi. Bon, on le connaissait pas avant, on le connaîtra plus après. Si on est transféré, on le reverra pas. Voilà.
Mais un homme qui fait donc 20, 25 ans de prison et qui n'a plus personne en bout de peine, il sort, il est libre. Qu'est-ce qu'il peut faire ?
Ben voilà, c'est tout le problème de la récidive. Vous avez tout compris. La récidive, elle est fabriquée en prison. On crée des individus qui ont perdu tout lien social avec l'extérieur. Et un jour, on ouvre la porte, on les met dehors. Alors, ils se débrouillent, 9 fois sur 10. Ils vont retrouver des gens qu'ils connaissaient autrefois. C'est remettre le pied à l'étrier.
Vous-même, si vous n'aviez pas eu Michel, est-ce que vous auriez pu replonger ?
Oui, sûrement, mais je peux pas deviner à l'avant, je peux pas savoir.
Mais en tout cas, vous savez que Michel a été un élément déterminant dans vos années de détention et votre vie après.
Ben moi, je l'appelle ma résurrection. Ma résurrection, c'est ma résurrection. Voilà, parce que, 24 ans de présence quand même. 24 ans. Les copains que j'avais en détention, ils connaissaient tous Michel et ils avaient un respect, quoi. Parce que. Elle était là.
Il est resté chez moi pendant 6 mois. Alors, à la maison, il avait une chambre à l'étage, et puis il me donnait un coup de main à éplucher les légumes, à faire ce que je voulais. On allait faire les courses, mais il n'aurait pas su partir seul, parce qu'il était complètement perdu dans la ville.
Un peu comme un enfant.
Oui, il devait être accompagné, tout le temps.
Même traverser une rue, oui, c'était pas évident.
Non, c'est pas évident. Et puis, c'est quelqu'un de très cultivé, et qui écrit très bien. Mais après, il y a un décalage, on voit, il y a un trou de 30 ans, et lui, il vit encore en 1980, il est encore à cette époque-là. Et puis, il n'avait aucune attache ici, aucune connaissance, d'ailleurs, il n'a plus de famille. Et donc, j'étais ça, la seule présence extérieure, quoi.
Claude, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de vos années de détention.
Ouais.
Mais vous aviez 45 ans quand vous êtes rentré en prison, vous avez vécu avant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vie ou de vos vies avant l'enfermement ?
Je suis obligé de parler de mes parents. Mes parents faisaient partie de la résistance en 1942. Ils ont été arrêtés par la Gestapo française, pas allemande. Et du coup, je me suis retrouvé en orphelinat, évidemment. À l'époque, les orphelinats, c'était pas l'abbaye de Thélème, faut pas croire, c'était des véritables sauvages. Et donc, j'ai vécu là-dedans jusqu'à l'âge de 13 ans, quoi. Et tant bon, on a vraiment été martyrisés, quoi. Mais quand je dis martyrisés, ça veut dire martyrisés, c'est vraiment, on a dérouillé, on a franchement dérouillé. Ça m'a appris à vivre. Ça m'a appris à me battre. La vie m'a obligé à être dur. Très dur. J'ai été récupéré par un prêtre qui tenait un foyer, qui m'a remis aux études. Parce que c'était terrible. J'étais à la limite de illettré. Alors il m'a remis à l'école, etc. J'ai récupéré le temps perdu. Parce que quand mes parents sont rentrés des camps, ils ont eu la chance de rentrer vivants, si on peut appeler ça de la chance. Mon père faisait 1m82, il devait faire 42 kilos, je crois. Et ma mère devait faire 33 kilos, je ne sais. Inimaginable, absolument inimaginable. Et puis, ils ont fini leur vie en rentrant à l'hôpital, en sortant de l'hôpital, en rentrant à l'hôpital, en sortant de l'hôpital, etc. Jusqu'à leur décès, quoi. Alors, j'ai rattrapé les études. J'avais une véritable boulimie de savoir. Il fallait... il fallait que j'apprenne tout. Donc, à 18 ans, j'avais le niveau ingénieur. J'avais rattrapé le temps perdu, quand même, hein. J'avais bien bossé, hein. Bon. Seulement, j'ai un nom kabyle. Et on était en pleine guerre d'Algérie. Pour moi, il n'y avait pas de travail, hein. Parce qu'on n'embauchait pas. Ou alors, on embauchait les Arabes, mais sur les chantiers. Je ne parle pas arabe, hein. Je ne suis pas musulman. Je suis chrétien. Mais c'est comme ça. Hein. C'est le nom suffit. Alors, du coup, je me suis engagé. Enfin, pas dans l'armée du salut. Hein. J'étais dans un groupement de commandos parachutistes. J'ai fait la guerre, quoi. Voilà. J'ai fait la guerre. Et puis, il y a eu le putsch d'Alger en 62. Il y a eu, enfin, etc., etc. Et puis, nous, les bérets rouges et les bérets verts, évidemment, on n'était pas du bon côté de la barrière avec De Gaulle. Alors, j'ai continué comme ça. Puis, ça a duré jusqu'à... J'ai combattu jusqu'en 67. Afrique du Nord et ensuite Afrique noire. Dans des groupements spéciaux, enfin, des trucs de fous furieux, quoi.
Et vous décidez un jour de revenir en France quand De Gaulle a
j'étais un missionnaire, évidemment. Bon, alors je suis rentré en France, mais je faisais partie des, on va dire, des listes rouges, quoi. Seulement, comme je suis un technicien de la guerre et du combat, c'est toute ma vie, ça. Pour des gens comme moi, il y a toujours de l'embauche, hein. Alors voilà, de fil en aiguille, je suis rentré, le grand banditisme, enfin, etc., etc. Voilà. Les affaires, c'est très bizarre. Des fois, on monte sur une affaire, elle est extrêmement délicate et dangereuse, et tout se passe bien. Nous, on faisait que des grosses affaires, hein. Sonnantes et trébuchantes, on va dire. Grosses affaires. Même les plus grosses qu'il y a eu en France. Et puis, des fois, les affaires, elles paraissent extrêmement simples. Et puis, le grain de sable, où... va savoir. Quelque chose qui... Et puis, tout déraille. Et tout tourne mal. Ça finit en western. Hein.
C'est ce qui s'est passé pour vous, ce dernier braquage qui a mal tourné et qui vous a envoyé
tourné,
en prison.
Très mal tourné, très mal tourné. Alors, coup de feu, blessé, mort, enfin, etc. Un western, quoi, un western. Et là, évidemment, on se retrouve avec toutes les polices sur le dos, y compris Scotland Yard. Là, évidemment, faut pas compter s'en tirer avec 2 ans avec sursis, hein. C'est évident, hein.
Vous avez été condamné, là, à perpétuité.
Et 18 ans de sûreté.
18 ans de sûreté.
À l'époque, c'était la plus lourde peine. 9 jours d'assises, ça défrayait la chronique, ce truc-là. C'est passé partout. Bon, voilà. On a fait le compte hier soir avec Michel des prisons. Parce qu'il fallait que je me les rappelle toutes. On en a compté 20.
20 prisons en 25 ans.
Ouais. Bien présent. C'est pas mal, non?
Responsable du Café de la Paix. Donc Claude a ses habitudes. Il est à 5 minutes de chez lui, à Hénin-Beaumont. Quel genre de client est Claude ?
C'est un client un peu particulier dans tous les sens du terme. Bon, d'abord, il est d'un certain âge, mais plus dynamique que certaines personnes qui sont plus jeunes. Bon, il manque pas d'humour. Un petit problème de surdité qui fait quelquefois qu'il y a un quiproquo et donc qui fait rire les gens. Il est très intéressé, très vif. Très poli. Il a du vécu, on sent qu'il a beaucoup d'expérience. et il est prêt à rendre service. Ça, c'est un élément très important de sa personne. Il est très tenace, entre autres. Hein. Il ne lâche pas le morceau, comme on dit vulgairement. Mais c'est quelqu'un de très affable et très sympathique.
Et vous avez créé une sorte de complicité
Je m'amuse avec lui. Je m'amuse surtout avec ces moments où il y a des quiproquos, mais je le fais marcher. Mais il est très, très ouvert à toute discussion sympathique. Et puis, bon, ça fait partie des gens que j'aime. Voilà. Et en plus, plus âgé que moi, je lui dois un certain respect. Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Je vous ai préparé là, si ça vous va.
Alors, hein?
Parfait.
Claude, en général, il aime cette place.
Ah,
tu aimes
bien
ce serait
vraiment.
Ah, voilà.
Ah oui, ah.
Merci Nino.
Il sait que j'aime pas les cacahuètes.
Il sait que Michel n'aime pas les cacahuètes.
Ah, oui.
Alors lui met toujours des petits gâteaux.
Bon. Allez, on va
traiter France-France. Bah oui, tout le monde dit Chine-Chine. Moi, j'ai France-France.
Alors, j'avais fait du pavé de saumon pour toi, parce que je sais que tu aimes le poisson, dont le saumon.
Voilà.
Alors, des légumes, tu veux pas d'épinards?
Ah non, je veux pas d'épinards.
Il y aura autre chose.
Vous connaissez ces goûts?
Oui.
Moi, je vais prendre du poisson.
Également.
Avec des épinards.
Avec des épinards.
C'est une très bonne sauce maison. Ma femme est une très grande saucière. Bien aimée, la saucière bien aimée. Bon, c'est là. C'est facile. Vous voyez comment je l'ai apporté sur un plateau. Trois saumons, deux normaux, un sans sauce, un avec sauce, mais avec autre chose que des épinards. Et bien ça, c'est noté.
En prison, on mange comment, Claude ?
Mal, très mal. Il faut cantiner.
Il faut combien à peu près d'argent par mois pour vivre correctement en prison ?
Pour vivre normalement, hein, sans faire d'extra, là, hein, de 200 euros par mois. Alors, bon, on prend le... D'abord, il y a le tabac, le café. Le café, le sucre, ça c'est obligé. L'huile, le vinaigre. Le sel, le poivre, obligé. Un peu de fruits, ou un peu de légumes frais, ou des conserves. On faisait comment ça s'appelle
Non, tu faisais une bolognaise, mais avec du cornet de bœuf.
Oui, on faisait la bolognaise aussi.
Vous avez redécouvert ce plaisir en sortant de prison.
Bah oui, évidemment, évidemment. Le plaisir de la nourriture et le plaisir de se mettre à table. Voilà, se mettre à table, quoi. Se mettre à table. C'est l'administration pénitentiaire qui décide de vous transférer là, ou là, ou là, à telle date, ou pas à telle date. On est un baluchon, hein. On n'est pas autre chose qu'un baluchon. Alors on tombe bien, on tombe mal, on tombe sur une centrale où on peut vivre plutôt tranquillement, Rion. Et puis on peut tomber sur une centrale où c'est nettement plus dur, Clairvaux. Avec un QHS plus que dur. Isolement total. Les QHS sont fermés. Alors, ça c'est, on a appelé ça les UVP. Unité de vie particulière. Ça fait mieux, non? C'est nettement plus mondain d'un seul coup, hein. En fin de compte, les UVP, c'est les QHS, hein, il ne faut pas s'y tromper. Hein, c'est l'isolement total. Juste avec les surveillants qui passent aux heures de repas, qui ouvrent le matin et qui ferment le soir. Voilà, c'est tout. Mais pendant 18 mois, je n'ai pas vu un détenu, quoi. Comment j'ai atterri au QHS? Alors voilà, j'avais créé une association qui s'appelait ADIM. ADIM, c'était Association de Défense des Droits de l'Homme Intramuros. Parce que, en prison, le droit, Il n'y a pas de droit en prison. Bon, il n'y a pas de droit. À cette époque-là, en 89, le ministère était d'accord, il me laissait faire, etc. Seulement, la pénitentiaire n'était pas d'accord.
Et comment on vous l'a fait comprendre, ça?
On m'a baluchonné, c'est tout. Et puis, je me suis retrouvé d'abord à Chaumont, et Clairvaux, UVP, 18 mois. La solitude est telle que vous choisissez comme vous voulez, mais tous les jours sont un lundi, ou un mardi, ou un mercredi, ou un jeudi, mais enfin, tous les jours sont tous les jours. Dehors, le temps passe. Dans ces endroits-là, on passe dans le temps.
Donc on fait quoi de ces journées?
On parle tout seul. Casser le bruit. Personne ne se rend compte que le silence fait du bruit. Le silence fait beaucoup de bruit. C'est très bruyant, le silence. C'est terrible. Dehors, il y a toujours un peu de vent, une voiture qui passe, ou si on est en forêt, le vent dans les branches d'arbres, enfin, voilà. Là, on est dans un tombeau. Les premiers temps, c'est même angoissant, parce qu'on a l'impression que il n'y a plus personne sur Terre. La Terre, elle est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. On se dit, où je suis? Qu'est-ce qui se passe? On écoute, mais on a beau écouter, on n'entend rien. Il n'y a rien à entendre. Alors, on écoute le bruit de ses pas. Parce que ça, c'est important, s'écouter marcher. Si on marche, c'est qu'on vit. C'est bête, hein? On se parle tout seul. Par exemple, bon, bah tiens, je vais me faire un petit café. Voilà. Bon, mais au moins, j'ai entendu le son de ma voix. On meuble, on rêve, on fantasme, on marche, on projette. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, ce qu'on fait. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. On ne se rend pas compte, mais 18 mois de solitude totale, il faut les porter. Hein. À tel point que je me rappelle un type, il avait complètement pété les plombs, et il parlait avec Johnny Hallyday à la fenêtre. À la fenêtre, c'est un grand mot, il n'y a pas de fenêtre en QHS. À la lucarne, qui est à 3 mètres là-haut. Voilà. Et alors, il grimpait à la lucarne et il parlait à Johnny Hallyday à la lucarne. Bon, c'est pour dire à quel point il avait pété un câble. Voilà. Voilà.
On va au Secours catholique, à la permanence, quoi. Voilà.
C'est tous les mardis. Vous y allez les mardis.
Tous les mardis, de 2h à 4h30. Et puis, le reste de la semaine, on s'occupe des choses. C'est des meubles pour un, c'est des papiers pour l'autre, c'est pour ci, c'est pour ça, etc. Voilà.
Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole au Secours catholique?
2011.
Depuis votre sortie de prison?
Ouais. Ça s'appelle catholique, mais c'est le secours catholique, c'est le nom. Mais il y a des musulmans, il y a des athées, il y a qui on veut, quoi. Le chef d'antenne, c'est un évangéliste. C'est bon.
C'était important pour vous d'aider en sortant de prison? C'était une des manières de trouver votre place quand vous êtes sorti?
Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que la misère, je suis un pro, moi. Je connais pas d'hier. Hein. Je connais depuis que je suis haut comme ça. Depuis que je suis tout gosse, puisque j'ai commencé avec les orphelinats. Alors, c'est pas d'hier. Hein. Bon. Et puis l'armée ensuite. Et la prison pour finir. Bon. voilà, si je peux aider, je peux aider, quoi. Je peux aider.
Alors, Jérôme Morillon, animateur de réseau de solidarité pour le Secours catholique du Pas-de-Calais, chargé particulièrement de la thématique prison-justice. Quant au Secours catholique, on m'a proposé une mission avec la particularité voilà, de coordonner les efforts et les actions des bénévoles du Secours sur le Pas-de-Calais en prison. Je me suis dit, mais Claude, c'est l'homme qu'il me faut. On est fin septembre 2012.
Et depuis, c'est donc une histoire qui dure.
Voilà. Pour certains, ça a été difficile d'entendre l'expérience. Et puis, ben, Claude, c'est quelqu'un qui est écorché vif hein, par rapport à ce qu'il a vécu en détention. Et une des premières choses qu'il m'a dit, quand tu rencontres des personnes détenues, tu fais comme avec moi, comme quand tu rencontres des gens dans la rue. Tu y vas franco, tu tends la main, tu serres la main, et puis après, ça roule, quoi. Il y a un projet, et avec Claude, on a mis en place une équipe qui s'appelle « Préparer et accompagner la libération ». Et voilà, moi j'ai tout de suite associé Claude avec ce couple, hein, puisque c'est un couple qui fait cet accompagnement, pour vraiment comprendre, essayer de lire entre les lignes à travers le courrier, puis après dans le comportement un peu particulier, ou pour lequel on n'a pas vraiment d'habitude, hein, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un type qui a fait 18 ans de prison, le jour où il est libéré, à quoi il pense, de quoi il a besoin, quels sont ses désirs, ses pulsions, etc. Claude, bah, il permet aussi d'être laid et d'avoir les mots qu'un autre bénévole ou une autre bénévole ne peut pas avoir puisqu'il n'a pas l'expérience.
La sortie, quand on sort de prison, on pense à ceux qui y restent. Donc j'avais un lecteur de DVD, j'avais des DVD, j'avais une cafetière, etc. Je laisse tout à tout le monde. Hein. Je vais pas sortir avec ma cafetière et mon lecteur de DVD. Hein. Et puis les types qui restent au trou, ils en ont besoin quand même. Et puis le surveillant, il vient me chercher. Vestiaire. Passe au vestiaire. Puis je me retrouve devant la porte de la centrale. On prend conscience qu'on est libre, mais avec un sentiment de culpabilité. Parce qu'on pense à ceux qui sont restés, qu'on vient de quitter. Moi, j'avais des amis en prison, avec qui j'ai fait des années. Et d'un seul coup, je les quitte. Et eux, ils restent. Et un est mort. Il est mort. Voilà. Des types qui ont 20 ans, 22 ans de fait. Ça, c'est des types avec qui on a partagé le pain, on a partagé les bagarres, on a partagé le bon et le mauvais. Des types vraiment intime du point de vue amical. Hein. Bon. Et puis voilà. Moi je suis dehors et eux sont dedans. Ça paraît assez idiot ce que je veux dire, mais on se reproche d'être libéré. On se le reproche. On a l'impression d'avoir déserté, abandonné. C'est une fracture qui fait très très mal. Très très mal. Et puis on a conscience qu'on ne sait plus vivre. On ne sait plus. Les habitudes que l'on a prises, les habitudes de douche, de toilette, etc., etc. Dehors, c'est plus les mêmes. J'ai habité chez Michel, j'ai habité 6 mois. C'était devenu invivable pour moi. Je suppose pour elle aussi. On est face à 1000 questions. Est-ce que je peux occuper la salle de bain maintenant? Est-ce que je vais pas gêner? Est-ce que je peux descendre de ma chambre maintenant? Est-ce que je vais pas gêner? Ou alors, si et je suis en bas, oui, mais là, ça fait longtemps que je suis là. Si ça se trouve, j'empiète. On ne sait plus.
Finalement, on ne sait pas comment exercer sa liberté.
On ne sait pas. On a une liberté, là. Comme un gros lot qu'on vient de toucher au loto. et on ne sait pas comment le dépenser. Ou bien on le dépense pas, et on touche à rien, on bouge plus. Ou bien alors on le dépense trop, mais on empiète sur l'autre. Là, je vais faire ça, laisse, le fais pas, je vais le faire à ta place. C'est, oui, mais à quel moment l'autre, il va dire, mais enfin, voilà, c'est trop plein ou trop vide. Viens un peu ici, là. Alors, comment tu vas?
Bien.
Quoi? Hop!
Ça va, Claude?
Comment tu vas, mon grand?
Ça va.
Et la patronne, elle est pas là, la patronne?
Elle est à côté.
Alors, j'ai relancé Jérôme, donc qui relance un peu Samuel. Donc, il le bouge un petit peu.
Moi, j'ai des nouvelles.
Ah!
Le second catholique a débloquer un financement pour notre projet, mais je ne sais pas de combien, je le saurai vendredi. Bon. Je sais en tout cas qu'ils ont voté un budget pour le projet.
J'ai rouspété, moi.
C'est une bonne nouvelle. Bon,
j'ai rouspété, j'ai dit à Jérôme, quand même, c'est pas élégant. Hein? Ah bah écoute, il fallait leur dire. Hein.
Bah, alors, tu vois,
oui, bah moi je leur ai dit.
Ça voilà. Va porter ses fruits.
Donc, ben, s'ils sont contents, tant mieux. S'ils sont pas contents, c'est pareil, je leur ai dit quand même. Alors comme ça, ça change rien du tout. Hein.
Donc là, Claude, on est dans la permanence du Secours catholique des Nains Beaumont.
Ouais.
Donc les gens sont invités à prendre le café.
Voilà.
On est autour d'une table. Comment?
Voilà, ben, tout le monde vient. Et puis, vient qui veut, quand il veut. Il n'y a pas de problème. Il y a Philippe, c'est le chef d'antenne. Il y a Patricia, là, elle est occupée, mais elle va arriver. Il y a Joël. Alors, Joël, c'est le champion du stylo, la paperasserie administrative, tu vois. Tu sais, les dossiers, les papiers, tout ça, il connaît par cœur. Hein. C'est un bon, Joël. Hein. C'est franchement un bon. Hein. Et puis, ben, on se complète. Ce que peut pas faire l'un, le fait l'autre. Ce que peut pas faire l'autre, le fait l'un. Enfin, voilà, voilà. Voilà, on fait comme on peut, quoi. Voilà. Et puis on a la mascotte. Ça, c'est la mascotte, ça.
Vous l'avez aidée?
Ah, ben ça, c'est ma puce, ça.
Beaucoup, beaucoup, oui.
C'est ma puce, ça.
C'est plus qu'aider qui m'a fait.
Ouais. C'est ma puce.
Donc, j'étais vraiment au fond, il m'a bien aidé à remonter la pente.
Maintenant, ouais. Elle a un appartement. Et alors, maintenant, elle a un appartement.
C'était long.
Ah, ça a été long,
mais ça a porté ses fruits.
Ah, attention, voilà mon patron. Oh, je suis plein de patrons, moi. J'ai des patrons dans tous les coins, moi. Oh là 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 là, je sais pas comment je...
Comment vous le décririez, Claude, en quelques mots?
Ah, Claude, alors, il est charismatique. Enfin, c'est quelqu'un de très sensible. Moi, Claude, je l'ai vu déjà pleurer plusieurs fois. Voilà, c'est un dur, mais avec un cœur tendre et puis beaucoup de souffrance. Moi, je dis Claude, il est, voilà, c'est un écorché vif et il le restera tout le long de sa vie. C'est quelqu'un de très généreux. De sa détention, il y a des blessures physiques et puis il y a des blessures morales. Claude, c'est parfois quelqu'un de très triste, très mélancolique. Il peut avoir le regard un peu perdu, qui s'embue un peu quand il pense qu'il est incompris. Et moi, je crois percevoir chez lui à ce moment-là qu'il y a à nouveau des murs qui l'enferment, alors qu'il est à l'extérieur avec nous. Il est très sensible aussi quand il arrive quelque part, voilà, qu'une personne ne lui serre pas la main, voilà, soit parce qu'on est passé à côté, soit parce que... Et il le prend très mal, quoi. Il dit « faut pas me juger ». Il y a une colère en lui aussi. Je sais la temporiser aussi parce qu'il me fait confiance. Quand je lui dis qu'il faut qu'il calme le jeu, il comprend. Et puis,
Voilà, parce que au tout début, Claude avait besoin de beaucoup parler, de raconter aussi les sévices. Hein. Il a vraiment vécu des sévices en prison, en détention. Et puis, les prisons sur nos départements peuvent parfois lui paraître des lieux où il fait bon vivre. Mais lui, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces lieux où ça ressemble un peu au paradis? Moi, j'ai pas vécu ça.
Voilà, je viens qu'une couverture, moi. Je m'installe là, par exemple, hein, là ou ailleurs. Et puis je dors là. Ouais, je dors là. Parce que je suis tout seul et je suis bien.
Donc, Claude, vous nous avez emmené dans ce que vous appelez le Petit Bois. On est à une vingtaine de kilomètres des Nains-Beaumont.
Ouais.
Qu'est-ce que vous venez chercher ici?
La paix. La paix. Et me retrouver moi pour une après-midi ou pour une nuit est un ours. Est un ours, j'ai besoin. Parce que la société est envahissante. Et des fois, je la supporte plus. Même les gens que j'aime bien, ça n'a rien à voir, hein. Je ne les supporte plus. Il faut qu'on me foute la paix.
Il y a ce contact avec la nature aussi qui vous manquait
en prison. Oui, j'ai besoin de ça. Ben, je suis un ancien broussard quand même. Hein. Et la nuit, c'est incroyable comment c'est silencieux, c'est tranquille. C'est, j'emmène un sandwich, une orange ou une banane, un truc comme ça, un litre d'eau, un duvet, voilà.
Alors, ça vous apaise?
Ah ouais, je suis tranquille. J'apprécie ma paix.
Michel, est-ce que Claude parle souvent de son passé, de ce qu'il a amené en prison?
À moi, oui. Il a besoin d'en parler, je crois, oui. Oui. Mais la vie d'un homme ne se résume pas à l'instant d'un acte. Hein. Il n'est pas que ça. Et c'est vraiment un homme de cœur. Une intelligence et des connaissances extraordinaires. Et puis, mais vraiment, ce qu'il veut, c'est être utile. Pour exister, il a besoin d'être utile. Mais quelquefois, il agit sans réfléchir. Hein, lui, c'est un homme d'action et tout de suite, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Tout de suite, il va l'aider n'importe comment. Mais bon, alors quelquefois, Philippe, le responsable d'antenne, des fois, il le remet un peu. Il lui dit non, il faut quand même réfléchir avant d'agir. Mais lui, non, c'est tout de suite.
Est-ce que vous avez trouvé une certaine forme d'apaisement, vous, aujourd'hui?
Oui. Et puis j'ai beaucoup d'occupations, donc j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, j'aime beaucoup ce que je fais.
Comment vous voyez les prochaines années de votre vie? Continuer comme ça?
Comme ça.
Dans cette activité, cette action permanente?
Tant que le corps, il tient le pavé, je ne sais pas combien il tiendra encore, mais jusqu'à là, il tient bien, ça va, ça baigne dans l'huile. Mais tant que c'est comme ça, ça va, c'est bien. Et la vie d'avant, je l'ai oubliée. J'habitais Nice, moi, sur la Corniche, les résidences. J'avais deux discothèques et une boîte de nuit. Hein. Ça fait du pognon, hein. Ça fait du gros pognon. Ça fait vraiment du pognon. Aujourd'hui, j'habite un petit deux pièces. J'ai une petite retraite de trois thunes espagnoles. Eh ben, ça me convient. Ça me convient, j'ai pas besoin de plus. Tout ça, ça m'a passé. J'ai plus besoin. Je saurais pas quoi foutre d'un appartement de cinq pièces. Voilà, je suis bien là, comme ça. Je suis bien.
Il y a des moments où on sent chez vous une certaine forme de tristesse ou de mélancolie?
Ouais, ben c'est parce que
C'est parce que j'ai perdu beaucoup de monde quand même. Hein. J'ai conduit beaucoup de monde au cimetière. Les miens en plus. Une femme, deux enfants, un frère, une mère.
Vous n'avez pas parlé du tout de votre femme et de...
Elle est décédée.
Vos enfants.
Et mes enfants aussi. Il y a très longtemps.
C'était au moment de la guerre d'Algérie ?
Ouais, en 62. Je me suis jamais remarié parce que ça m'a jamais intéressé. Parce que j'ai jamais eu envie. Et puis en plus j'avais pas le temps, j'avais autre chose à faire. J'étais pris par les affaires, la voyoucratie c'est un métier. Hein. J'ai des regrets sur certaines choses que j'ai faites, parce que j'ai pas été un enfant de cœur. J'ai même été loin d'être un enfant de cœur. Alors. Si c'était des. C'était. Certaines choses, si c'était à refaire, je les referais pas. J'ai fait des choses à l'armée. Bon. On va faire la différence entre deux mots. Je suis immoral parce que je n'ai pas la moralité des gens. Ça ne veut pas dire que je suis amoral. J'ai ma moralité. L'inceste, jamais touché. Le viol, jamais touché. La pédophilie, jamais touché. La drogue, jamais touché. Le proxénétisme, jamais touché. La traite des blanches, jamais touché. Le reste, j'ai tout fait. Voilà, comme ça on ne peut pas se tromper. Hein ?
Quelles séquelles physiques vous avez de vos différentes vies ?
J'ai des cicatrices, des cheveux jusqu'aux pieds. J'ai deux chevilles qui ont explosé. Ça, c'est un éclat de mortier. Ici, j'ai pris une bastos. J'ai quatre trous dans la tête. Ça, c'est un coup de manche de pioche. Ça, c'est un coup de barre de fer. J'en ai partout. Et je suis toujours en vie. Et j'ai 76 ans, je suis toujours en vie. Le canard est toujours vivant. Voilà, 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 c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.
C'était Claude Libre à tout prix. Avec Claude, Michel, Philippe, Jérôme et Dino. Attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination Irène Omelianenko. Un documentaire de Marina Bello et François Test pour Sur les Docs.
I am good, I am grounded. Davy says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden? You got out and said